Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin. On se retrouve ce soir encore pour nos deux heures de libre antenne. Merci d'être là et de faire avec nous chaque soir cette émission. Souvent dans vos témoignages, vous venez me dire à quel point quelqu'un de votre entourage vous a fait du mal. Une mère cinglante, une sœur jalouse, un mari insultant. Alors j'aimerais partager avec vous ce conte. Un jour, dans la foule rassemblée pour écouter Bouddha, se trouvait un homme qui ne le supportait pas. Exaspéré par le sage, il lui lança des insultes, il fulminait. Et fulminant encore de colère, il s'en alla. Un peu plus tard et un peu calmé surtout, il s'en voulut et avait un peu honte. Il décida donc de revenir présenter des excuses au maître. Bouddha lui répondit qu'il n'avait rien à lui pardonner. L'homme très étonné lui rappela toutes les injures qu'il avait pourtant proférées à son égard. Bouddha sourit et lui demanda « Dites-moi, qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un vous tend un objet dont vous n'avez pas besoin ou que vous ne voulez pas ?»« Eh bien, je ne le prends pas, » répondit l'homme. « Très bien, » dit Bouddha. « Dans ce cas, que fait celui qui voulait vous donner cet objet ?»« Bien, je suppose qu'il le garde. »« Voilà, » dit Bouddha. « Voilà pourquoi vous êtes mal à l'aise avec les injures et les grossièretés que vous avez proférées. Quant à moi, rassurez-vous, je vais bien. La violence que vous avez cherché à donner, il n'y avait personne ici pour la prendre. » Alors bien sûr, nous ne sommes pas tous Bouddha, loin de là, mais cet enseignement nous permet de réfléchir à tout ce que nous absorbons des autres, alors que nous n'y sommes pas forcément obligés. Pour parler de tout ça et de bien d'autres choses encore, nous sommes en direct jusqu'à 1h du matin sur Europe 1. Le numéro de téléphone pour nous joindre, vous le connaissez, c'est le 3921. Autour de Julien Blanc Régie, Nicolas et ce soir Cindy, à qui je souhaite la bienvenue de notre équipe, attendent vos appels. D'ailleurs, si vous voulez mettre des visages sur leur voix, je viens de les mettre en photo sur ma page Facebook Sabine Marin. 3921 donc pour venir me parler, pour participer, pour réagir par SMS, 73921, suivi du mot nuit et de votre message.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et celle avec qui je démarre cette émission ce soir, c'est Marie-Pierre. Bonsoir Marie-Pierre.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Merci, merci. Très heureuse de vous rencontrer.
Moi aussi.
Alors, je vous appelle parce que je n'ai pas encore un genou à terre, mais je vacille.
Oula, il est temps que je vous rattrape alors.
Oui, oui, oui.
Ok.
Oui.
Dites-moi, qu'est-ce qui se passe?
Oui. Alors, je suis tombée malade il y a 4 ans. Alors, vous savez, ça vous, au lieu de me faire un burn-out, je me suis déclenchée une maladie auto-immune.
Ah, c'est bien aussi, ça, oui.
Oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous dites « je me suis déclenchée » Qu'est-ce qui vous a fait tellement souffrir avant?
Eh bien, c'est le travail, beaucoup, ouais. Avoir la tête dans le guidon, beaucoup, ouais. Et puis avancer toute seule, serrer les dents, enfin voilà.
C'est ce que j'allais ouais. vous dire, c'est tout ce que vous n'avez pas réussi à exprimer à ce moment-là, ou pas oui. pu, ou pas eu le droit oui. d'exprimer. Ouais.
Oui.
Quand vous dites serrer les dents, c'est tout ce qu'on garde à l'intérieur.
Oui. Oui, oui. Parce que moi, en fait, j'ai perdu ma maman, j'étais jeune, j'avais 15 ans. 10 ans après, et puis je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Elle est morte en 3 mois d'une tumeur au cerveau.
Oh là là, ouais. À 15 ans, c'est tellement, oui. tellement dur.
Et puis j'ai été confrontée. On m'a dit, il faut que tu tries ces affaires, les vêtements. Donc voilà. Je me suis occupée de ma mère à 15 ans pendant les 3 derniers mois de sa vie, alors qu'elle était très, très, très malade, quoi.
Ouais. Voilà. Ça laisse des traces.
Elle ne marchait plus. Ouais. Je l'ai lavée. Je n'avais jamais vu ma mère nue. Donc, mais bon, vous savez, quand c'est comme ça, on fait.
Mais pourquoi c'est vous qui avez fait ça et pas une aide-soignante ou quelqu'un?
Parce que à l'époque, si vous voulez, mais personne s'est posé la question. Personne m'a demandé. Personne. Ouais. Il fallait faire, donc j'ai fait.
Ouais.
Et puis, donc ça, 10 ans après, 5 ans après, j'ai accompagné le frère de ma mère aussi, jusqu'au bout. Et 5 ans de nouveau après, mon papa. Voilà, oui. jusqu'au bout aussi. Et puis, après, bah, du coup, si vous voulez, toutes ces morts comme ça, c'était atroce. Donc, du coup, bah, j'ai fait mon fils pour revenir à la vie.
C'est ce que j'allais dire, ramener un peu de vie dans tout ça.
Oui, 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 oui. Et puis après, bon, ben voilà, j'ai élevé mon fils, tout, mais en fait, de tout ce que j'ai vécu, j'ai jamais craché le morceau, en fait.
Et oui.
Et puis donc, boulot, boulot, boulot. Et il y a 4 ans, ben j'ai dû avoir un trop-plein. Donc, j'ai pris froid. Et puis, vous savez, le corps décide donc de dire stop.
Mais oui, à un moment donc, donné, quand fait, on est content, on ne s'écoute pas.
Oui. Oui.
Et quand on ne s'exprime pas, surtout. Oui.
Et donc, du coup, hein, en fait, c'est tout très symbolique. C'est-à-dire que j'ai eu une bronchite qui a duré 3 mois, qui me faisait tousser, qui m'empêchait donc de respirer. Et donc, sans solution. Et ça m'a... C'était déjà le début, si vous voulez, d'une maladie auto-immune. Enfin, ça a chamboulé... j'ai eu un orage immunitaire, voilà.
Oui.
Et donc, en fait, ça s'est mis sur ma moelle épinière.
Et concrètement, c'était quel genre de symptômes ?
Alors, parasthésie, c'est-à-dire d'électricité dans les membres inférieurs jusqu'à la taille. Alors ça, c'est tout un univers, un vocabulaire que j'ai découvert au fur et à mesure. Hein.
Oui.
Parce que moi, je me disais, oh, je suis fatiguée, mais ça m'a passé. Le généralisme dit, oui, oui, c'est normal, voilà. Et puis, donc, moi, j'ai continué à travailler, à aller en clientèle. Et puis, j'ai eu de grosses fatigues, de plus en plus de mal à marcher. Mais je me disais, c'est normal, c'est la fatigue.
Mmh.
Et un jour, je n'ai plus pu monter dans la voiture.
Et oui.
Voilà. Et puis, donc, du coup, j'ai fait une crise un dimanche matin au hall devant plein de gens que je connaissais, mais peu importe, hein, c'est pas grave, les gens ont été vraiment bienveillants. Voilà.
C'est-à-dire une crise qui s'est manifestée comment ?
Eh bien, une crise, j'ai eu de l'électricité dans tout le corps. J'avais juste la tête, le visage qui n'était pas atteint.
Ça fait quoi, comme des convulsions ?
Comme des décharges électriques, oui, c'était bizarre.
Ouais.
Et du coup, je me suis accrochée à la banque de la boulangère. Et puis donc là, j'avais des copains qui buvaient un pot, tout ça, donc ils sont venus à mon secours.
Mmh.
Voilà, et puis du coup, ben, pompiers, tout. Puis après, la crise est passée, quoi. Voilà. Et puis après, bon, hospitalisation, ponction lombaire. Ben ça, je savais que j'allais pas y couper, donc ponction lombaire, crac. Et puis on m'a laissé sortir au bout de 10 jours en me disant ben, ce n'est pas une sclérose en plaques, vous allez rentrer chez vous sans traitement, sans rien. Vous allez rentrer chez vous, vous allez faire appel aux services sociaux pour voir comment vous allez gérer. J'ai repris le travail tout de suite, quoi. Voilà.
Ouais.
Voilà.
C'est que votre corps a pourtant parlé fort, mais vous ne l'avez pas écouté longtemps. Hein.
Oui. Oui. Mm. Et puis du coup, j'ai cherché une autre neurologue. Mon fils m'a dit, écoute, tu peux pas rester comme ça. Donc on a trouvé une neurologue super.
Ah.
Oui, et donc le lundi, j'étais en clientèle, le lundi à 2h. Et le mardi, sa secrétaire m'avait proposé un rendez-vous. Et elle était étonnée que l'hôpital m'ait laissé sortir comme ça, sans traitement, sans rien. Et le mercredi, j'étais hospitalisée. Voilà.
Qu'est-ce qu'elle a pensé, elle, tout de suite ?
Sclérose en plaques.
Ah oui.
Parce que quand elle a vu les IRM, elle m'a dit sclérose en plaques. Et en fait, non. Donc, j'ai une maladie auto-immune inflammatoire rare du système nerveux central.
D'accord. Qui peut ressembler effectivement de...
Oui, j'ai des lésions de sclérose en plaques, mais sur le plan des analyses, c'est pas une sclérose.
Ouais,
je suis même montée à la Pitié-Salpêtrière aux maladies rares, voilà. Et ouais. Donc, ils m'ont confirmé que c'était pas une sclérose en plaques, voilà.
Et ouais. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même des traitements, ouais. Des traitements pour vous soulager ?
Alors, évidemment, comme j'avais ma première poussée quand j'étais hospitalisée, donc en fait, j'ai eu un traitement de cheval, quoi. Et puis maintenant, vous savez que les nouveaux protocoles, on fait de la... j'avais une perf de cortisone pour enlever le phénomène inflammatoire, une perf par jour, voilà.
Oui, il y a beaucoup de cortisone dans ces traitements-là, oui.
Ouais. Mmh. Et puis de la chimio, j'ai eu 3 chimios. 3 chimios pendant... par mois, une chimio par mois. Puis à la troisième, j'ai dit stop.
J'allais vous demander comment vous l'avez supporté.
Ah ben, première et deuxième bien. Première, on a un peu les jetons hein, quand même, hein, parce que on a l'impression qu'on vous imagine un poison. Mais j'ai eu un infirmier exceptionnel, Anthony, un amour. Oui, ça compte hein, aussi. Hein.
Oh là là, oui.
Oui, c'était vraiment une nounou.
Ouais.
Et donc, la première, ça a été. Deuxième, puis troisième, vous savez, vous êtes une flaque de fatigue, quoi. Mmh. Donc, quand vous ne pouvez plus monter dans le taxi pour rentrer, donc j'ai dit stop. Oui. J'ai arrêté à 3.
Quel était le risque d'arrêter, alors ?
Eh bien, donc, que, si vous voulez, la maladie, avec la première poussée, qui était très violente, ne soit pas complètement stoppée, quoi.
Mm-hmm.
Alors, j'ai quand même posé la question après à l'interniste, pour lui dire, mais s'il y avait des gros risques, est-ce que vous me l'auriez dit ? Il m'a dit oui. Bon, voilà, il a eu cette honnêteté-là, quoi.
Oui, oui. Oh. Donc là, vous êtes entre les mains d'une bonne neurologue, si j'ai bien compris.
Alors là, j'en ai changé parce que problème de communication.
Ah.
Ben oui, c'est dur. Hein.
C'est compliqué de trouver le bon médecin avec qui ça passe bien. C'est pas évident.
Oui, parce que ils sont très maladroits, quelquefois.
Mm.
Très maladroits.
Ils ne se rendent pas compte que quand on est malade, chaque mot qu'ils prononcent, on l'absorbe.
Oui.
Chaque mot est important, chaque intonation, chaque regard prend une dimension différente quand on n'est pas bien.
Et pourtant, ils ont quand même le culot de vous dire qu'on ne retient que 10% de ce qu'ils nous disent. On m'a dit ça.
Oui.
Et puis alors, vous savez, pas le temps de me faire une ponction lombaire, donc elle a délégué le truc à un autre neurologue que je n'aimais pas, et alors il a raté la ponction lombaire, enfin je vous dis pas, c'est-il, mais... hyper traumatisant, quoi.
Ouais,
du genre, bon, là, est-ce que vous sentez encore vos jambes ? Oh, mais non, mais...
Ouais.
Voilà, donc là, je pardonne pas. Parce que moi, je travaille dans le milieu du bâtiment et je ne me permettrai pas d'avoir cette attitude-là avec mes clients. Alors que je vends du matériel, hein, des trucs...
oui.
Voilà.
Eux, ils sont au cœur de l'humain. Et oui, bien sûr.
Oui, mais oui. Et puis ça, et puis après, écoutez, ils sont très contents d'eux, quoi. Voilà. Donc, ils n'ont plus de solution pour vous. Ils ne sont pas capables d'améliorer, de se remettre en question, d'améliorer votre état de santé. Donc, en fait, ils vont chercher à vous dézinguer. C'est-à-dire, ils vont vous dire, mais est-ce que c'est bien raisonnable de conduire encore ? Faudrait peut-être passer. Ah, si vous amusez pas, ça, malheur. Hein. Voilà. Ou alors, évidemment, avec les traitements, j'ai pris 30 kilos. Est-ce que vous avez pensé à vous faire opérer, vous faire faire un bypass ?
Non. Mais... Oui. Alors, c'est la cortisone probablement qui était à la.
Oui,
ben
oui. Oui, oui, oui. Ouais,
ouais. On le sait pourtant, hein, que ça n'a rien à voir avec la boulimie, ça. Ben oui.
Ben oui. Alors, je leur dis, j'aurais dit, écoutez, l'incompétence, elle n'est pas dans mon camp. Hein. Voilà. Ouais. Donc, alors évidemment, on leur parle comme ça, oups.
Est-ce que depuis, vous avez trouvé quelqu'un avec qui ça se passe bien ?
Alors, j'ai trouvé une petite jeune donc, à l'hôpital neurologique de Lyon. Mais c'est pas le pied, quoi. Parce qu'ils sont très contents d'eux, en fait.
Mmh.
Voilà. Alors, j'essaye de colmater, si vous voulez, les brèches en me faisant... J'ai beaucoup de chance. Je suis suivie par un professeur de médecine orientale en acupuncture, un vieux monsieur, qui est extraordinaire, qui est d'une douceur, c'est du bonheur.
C'est un très bon complément, ça, évidemment, bien sûr.
Donc, parce que... moi, je me suis fait 3 venins, enfin bon. Et donc, la médecine, l'acupuncture est une bonne indication pour le zona. Mm-hmm. Et pour le travail sur l'énergie, parce que je suis très fatiguée.
Évidemment. Oui,
oui. Et il a les mains d'une douceur extraordinaire. Oui. La première fois que j'ai touché ses mains, j'ai eu l'impression de... C'est doux ce que je veux dire. toucher les mains de Sainte Thérèse de Lisieux. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette image.
Bon, en tout cas, ça veut dire qu'entre lui et vous, ça marche, et il vous fait du bien, et ça, c'est l'essentiel.
Oui. Voilà. Alors, donc, je colmate comme ça, et puis, si vous voulez, pendant que j'étais malade, après, je suis partie en centre de rééducation, et donc, je me suis coupée du monde. Bah, je n'ai fait que travailler.
C'est un peu normal, on est très centré sur soi quand on est mal.
Oui.
C'est logique, on n'a pas suffisamment d'énergie pour la partager avec d'autres.
Oui. Alors, du coup, mon fils, venait me voir, mais je n'ai pas voulu de visite, je n'ai pas voulu rien. Mmh. Voilà. Et puis, par exemple, le vendredi, j'ai eu ma dernière chimio, le lundi, j'étais au boulot. Voilà, parce que je mettais un point d'honneur et ça me faisait du bien. Mmh. Donc, j'ai repris le travail tout de suite. Mais quand même, je me suis coupée de mon cercle. Et là, maintenant, je me réveille. Je viens de perdre deux personnes que j'aimais beaucoup, des personnes que je n'ai pas revues depuis ma maladie, forcément. Oui. La dernière personne là dont je viens d'apprendre la mort, c'est terrible parce qu'en fait, Sandrine, c'était quelqu'un d'exceptionnel, c'était quelqu'un de solaire. Et une nuit, je me réveille, je pense à elle, et je ne sais pas pourquoi. Je regarde sur mon téléphone, je tape son nom, et je tombe sur son avis de décès.
Aïe.
Ah, et je les prime en pleine tête, quoi.
Oui.
Et je dis, mais c'est pas... Et quand j'ai vu... Alors, ça fait un an qu'elle vient de mourir, c'est pour le premier anniversaire de sa mort que c'est comme si j'avais reçu un message.
Mais quels étaient vos liens, toutes les deux ?
Amis.
Et comment se fait-il qu'il y a un an, même si vous étiez en retrait un petit peu de toute cette vie sociale, que personne ne vous a envoyé à faire part ?
Eh bien, parce que, en fait, pendant que j'étais malade, elle-même, et elle a fait vivre l'enfer à sa famille. Elle a vécu un chemin de croix. Et quand j'ai appelé le lendemain de cette nouvelle, j'ai appelé ses parents, j'ai laissé un message, ils m'ont rappelé.
Oui.
Sa grande sœur, du coup, m'a appelé, et donc pendant 2 heures, elle m'a expliqué ce qui s'était passé pendant 3 ans. Et j'ai dit, tu sais, je dis, alors elle me dit, et toi ? Ben, je dis, ben moi, j'étais au 40e en dessous.
Dans le fond du trou aussi, finalement.
Oui, aussi, pareil. Ouais. Oh, elle m'a dit, mais c'est pas possible. Ben, oui. Et donc, j'ai appris mais des choses terribles. Sandrine a vécu et a fait vivre à sa famille des choses terribles.
De quoi est-ce qu'elle est... de l'alcool. Ah, de quoi est-ce qu'elle est décédée concrètement ?
Alors, j'ai pas osé poser la question, mais elle est morte d'un mélange d'alcool et de médicaments.
Ah. Donc ça serait plutôt un suicide qu'une mort par maladie.
Oui.
Vous la connaissiez sous cet angle-là ?
Eh bien, mais pas à ce point-là, quoi.
Ah.
Et en fin de compte, et il y a 3 ans et demi, quand j'ai plus eu de nouvelles, parce que j'ai repris mes SMS, voilà, j'ai repris là où le fil s'était arrêté avec elle. Et donc, elle était déjà très très mal, elle buvait beaucoup, elle avait caché ça à ses parents, à sa famille, et elle était déjà dans un état grave.
Oui.
Au niveau de l'alcoolisme, en ayant un petit garçon.
Mais oui, voilà. Mais comme vous dites, tout ça a commencé au moment où vous avez commencé à tomber aussi dans le trou.
Oui.
Donc c'est normal que vous n'ayez pas suivi tout ça, quoi.
Oui, mais c'est vrai que de pas avoir été au courant, et j'ai pris ça, mais c'est hyper violent, donc Le problème, si vous voulez, c'est que ben, je culpabilise parce que
Voilà,
j'ai coupé les ponts avec tout le monde.
j'allais y venir, je sentais comme un fond de
Ouais.
culpabilité dans tout ça.
Oui. Ouais.
Parce
J'ai
que.
coupé les ponts.
Ben oui, mais évidemment, vous avez coupé les ponts. Mais je pense que quand il y a autant de situations difficiles, on cherche toujours un coupable. Il n'y a pas de coupable. Là, le coupable, c'est la vie, c'est pas de chance. C'est vrai que vous êtes tombé au même temps qu'elle. Vous ne pouviez pas être là pour elle. Elle ne pouvait pas être là pour vous non plus. Ça s'est télescopé. C'est vrai que ce qui est malheureux, c'est que vous n'ayez pas su son départ un an plus tôt. Ça aurait peut-être été un petit peu moins brutal, on va dire, que de la prendre comme ça. Quoique. Mais coupable de quoi, Marie-Pierre? Franchement, de quoi?
Eh bien, vous savez, on est vraiment bête parce que on a notre petit orgueil personnel. Alors, vous savez, moi, j'appelais plus parce que je disais, c'est toujours les mêmes qui appellent. Donc, moi, je n'appelais plus. Voilà. Ça a commencé comme ça, quoi.
C'est pas très important. Vous savez, souvent je parle de lâcher prise. Et là, en l'occurrence, pour vous, ce qui me semble important, c'est de lâcher prise dans le sens où lâcher prise, c'est écouter juste son cœur et pas son ego. On s'en fiche de qui avait raison, qui avait tort, qui aurait dû appeler, qui aurait pas dû appeler. C'est la vie. Vous avez chacune vécu des épreuves très très violentes. Elle s'en est pas sortie. C'était son destin. Vous êtes encore là, mais vous n'y êtes pour rien du tout, du tout, du tout. Vous n'avez rien fait volontairement contre elle.
Non, c'est sûr,
Vous
c'est
savez
sûr.
ce que je dis toujours à propos de la culpabilité, hein. On est coupable quand on fait volontairement du mal à quelqu'un.
Oui.
Vous n'avez pas cherché une seule fois à faire volontairement du mal à qui que ce soit. Vous êtes rentré dans votre coquille, vous êtes mis dans votre bulle parce que vous étiez malade. Et c'est normal, c'est humain. C'est presque même quelquefois un réflexe de survie.
Ah ben oui, parce que j'étais en guerre.
Et contre vous-même, bien sûr.
Ah oui, j'étais en guerre. Oui, contre la maladie, tout ça.
Et toute l'énergie dont on a besoin pour soi, on ne peut pas la partager avec d'autres dans ces moments-là. Là, ce qui est malheureux, ce qui est triste, c'est que ça s'est percuté au même moment qu'elle, quoi. C'est tombé exactement sur ces 3 ans-là. C'est la vie, malheureusement.
Alors, moi, j'ai des rapports particuliers, quelquefois avec les morts, avec les gens qui partent, voilà. Et Sandrine, ben, je ne sais pas où elle est. J'arrive pas à la capter, j'arrive pas. Alors, l'autre personne que j'ai perdue au mois de juillet, Benoît, je sais où il est. Parce qu'il a décidé d'en finir. Donc, je sais que il s'est libéré. Voilà. Mais Sandrine, je ne sais pas où elle est.
Eh bien justement, est-ce que c'est pas cette culpabilité qui fait un blocage?
Je sais pas.
J'ai un peu l'impression
Je sais
que
pas.
cette culpabilité-là vous met comme une porte que vous n'arrivez plus à franchir pour le coup.
Alors bon,
C'est pour ça que je vous dis, lâchez le mental. Lâchez les j'aurais dû, les pourquoi, les oui, mais je me suis renfermée, mais je ne l'ai pas appelé, j'ai regardé les textos. Lâchez tout ce qui est mental et connectez-vous juste à votre cœur. Juste à ce que vous ressentez. Comme vous dites, il y a eu un message quand même. Vous avez pensé à elle pile au bout d'un an.
Oui.
C'est pas anodin, ça, quand même.
C'est ça qui me perturbe.
Pourquoi ça vous perturbe? Je trouve ça plutôt beau comme connexion, moi.
Je ne sais pas quoi en faire, ce message. Alors, j'essaye de suivre vos conseils, parce que je vous écoute. Donc, j'ai écrit son prénom, son nom, sur un petit papier. J'allume une bougie, je fais brûler un petit bâton précieux. Voilà, j'essaye de trouver un rite, vous voyez, d'essayer, mais.
Mais
Je ne sais pas comment je
dans
vais
quel
faire.
but, quel est votre objectif finalement? Quand vous dites
Trouver où elle est.
je ne sais pas quoi en faire. Trouver où elle est, mais dans quel but?
Bah, me dire que peut-être qu'elle est bien là où elle est. Peut-être.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire pour vous sentir moins coupable, ou c'est pour elle?
Ah non, c'est pour elle.
C'est pour elle.
Oui. Alors après, c'est vrai que le problème, si vous voulez, c'est que c'est. Vous voyez, c'est des choses comme ça, des événements qui créent une fissure, une voilà. Et donc c'est pour ça que là alors dans le travail, je me mets des objectifs, c'est super. Je travaille comme je peux parce que j'ai des problèmes de mobilité, hein, forcément.
Ah, vous avez repris le travail quand même ?
Oui.
Même pas en mi-temps thérapeutique ?
Non. Oui, je suis auto-entrepreneur, donc c'est vrai que puis les clients sont super sympas. Hein.
Bon.
Donc, oui. Donc, ça aide hein, le travail, beaucoup.
Si vous y êtes bien, oui. Si c'est un combat quotidien, non.
Non, j'y suis bien. Ouais, bon, c'est important. C'est sympa. Ouais. Ouais. Et puis après, mais c'est vrai que et je trouve que plus on vieillit, plus on devient sensible. Moi, je pensais qu'en vieillissant, on s'endurcissait. Ben, pas du tout.
Ça dépend des gens, je dirais. Là. C'est peut-être une généralité. Peut-être que vous avez une sensibilité qui s'ouvre, qui se développe encore plus.
Oui.
D'autres se referment, au contraire.
Oui.
Ça dépend. Mais
alors, bon...
Je comprends globalement ce que vous êtes en train de me dire par rapport à cet ami. La seule chose qui me vient là tout de suite, c'est juste laisser le temps passer, laisser un peu de temps. Vous voulez tellement... Vous savez, quelquefois, quand on veut tellement fort quelque chose, c'est trop. Lâchez un petit peu cette... j'allais presque dire ce besoin de... Comme vous dites, j'ai besoin de savoir où elle est. Lâchez un petit peu ça va venir. Vous avez déjà eu un premier message au bout d'un an, comme ça.
C'est vrai que quand j'ai su ce qui s'était passé, mais c'était abominable, quoi. Parce que comme elle n'était plus... Comme elle buvait tellement qu'elle n'était plus capable de s'occuper de son petit garçon. Mmh. Et un jour, elle a pris un malaise et son petit garçon a 5 ans et demi a appelé les pompiers en disant « ma maman ». Voilà, donc les pompiers sont venus et les services sociaux ont pris le petit garçon.
Oui, vous voyez, je crois qu'il y a dans toutes ces histoires-là qui s'entrechoquent, la sienne et la vôtre, il y a plein d'émotions qui sont encore là. Et qui peuvent un peu, peut-être, vous empêcher de vous connecter tranquillement à elle. Il y a Théodora qui vous envoie un très gentil message et qui dit peut-être faudrait-il que vous écriviez une lettre à votre amie pour lui souhaiter une bonne continuation. Peut-être qu'au lieu de simplement mettre une bougie et d'attendre de vouloir désespérément un contact, juste lui écrire tous les jours un petit peu.
D'accord.
Laissez-vous du temps et laissez-lui du temps. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions là qui partent dans tous les sens, et c'est bien normal parce que vous vous rendez compte, entre son histoire et la vôtre, en miroir pratiquement, ça fait beaucoup de choses. Et je pense que des émotions qui sont à ce point-là présentes peuvent effectivement vous perturber et vous empêcher de vous connecter calmement, tranquillement.
Et c'est vrai que j'ai su tout ça, mais en 2 heures de conversation téléphonique.
Vous vous rendez compte, c'est un tsunami, hein.
Ah oui.
Vous avez vécu le vôtre d'abord et le sien après.
Oui, ça m'a sonné, quoi. Voilà.
Oui, c'est pour ça. Laissez-vous du temps et je suis tout à fait d'accord avec Théodora. Prenez le temps de lui écrire tous les jours un petit peu.
D'accord. Et j'en fais quoi de ce que j'écris ?
Vous le gardez.
Peu importe, ça n'a pas d'importance.
Non, c'est pas ça qui est important, c'est le fait d'avoir écrit. Et peut-être, moi je garderai ça dans un tiroir pour peut-être les relire plus tard.
D'accord.
Justement quand les émotions se seront posées et que peut-être vous aurez cette connexion que vous espérez tant.
D'accord.
Pour voir le chemin parcouru justement. Hein,
oui, parce que je me rends bien compte que chez elle, sa grande sœur, c'est pareil. Parce qu'elle regarde la photo de sa sœur et puis elle lui montre son poing, tellement elle lui en veut.
Oui. Oui, l'image qui me vient, c'est que quand on est dans un lac, par exemple, ou au bord de la mer, et qu'on a beaucoup remué, et qu'on a laissé tomber quelque chose dans le fond, tant qu'on remue, on n'arrive pas à trouver ce qu'on cherche. Il faut laisser les eaux se poser pour arriver à y voir un peu plus clair.
Hein. Je comprends l'image, oui.
Et je pense que pour l'instant, vous êtes un peu dans ce tourbillon-là, et c'est bien normal. Laissez le temps à la vie de se poser aussi un peu. Hein.
Oui.
Et je pense que du coup, vous y verrez bien plus clair.
Et puis, oui. Oh là là, c'est terrible. Et puis, oui. Et puis, il faudrait que... parce que, en fait, il y a un tas de choses que je n'accepte pas, parce que c'est pas dans mon caractère
Ah ben voilà.
d'accepter. Pour moi, l'acceptation, c'est de la faiblesse.
Ah là là, quand on parlait du lâcher prise, c'est marrant, j'ai entendu que je suis plus sûre dans quelle émission quelqu'un qui disait ah non mais lâcher prise c'est pas possible, c'est de la lâcheté. Ouh là là, là c'est confondre le lâcher prise avec le laisser aller, ça n'a rien à voir.
Oui, parce que
Lâcher,
moi, on m'a dit beaucoup
accepter.
d'accepter, mais comment on peut accepter? Oh,
Et oui,
ah
mais c'est la clé de plein de choses. Ce qui nous fait le plus mal dans la vie, quel que soit ce qui nous arrive, c'est pas ce qui nous arrive, même si c'est très douloureux, c'est qu'on refuse que ça soit arrivé. Et on refuse quelque chose qui est un fait. Et donc, tant qu'on refuse ce qui est, ce qui s'est passé, on se tape la tête contre un mur et on ne comprend pas pourquoi on se fait mal.
alors, est-ce que se battre contre la maladie, c'est refuser d'accepter.
Alors ça, c'est un sujet extrêmement délicat. Moi, je n'aime pas dire que je me bats ou que quelqu'un se bat
Ah.
contre une maladie, parce que dans un combat, il y a toujours un perdant. Le souci,
D'accord.
c'est que la maladie, c'est aussi une partie de vous.
Oui.
Et donc, c'est très compliqué d'être soi-même à la fois gagnant et perdant. Je pense qu'il faut accepter ce qui nous arrive, faire avec et faire la part des choses. Se battre, oui, mais pas dans le sens de se déclarer une guerre contre soi-même. Se battre contre tout ce qui nous a fait du mal, se battre contre tout ce qui est toxique, se battre avec les médicaments dont on a besoin, ça d'accord. Mais c'est pas se battre contre soi-même. C'est se
Oui.
battre contre tout ce qui est mauvais pour nous. Ça oui.
Ouais.
Je sais que c'est on pourrait en parler pendant des heures, c'est un sujet extrêmement sensible. De comprendre que le lâcher prise, c'est pas laisser aller, c'est pas je m'en fous, c'est pas je m'occupe plus de moi ou je m'occupe plus de l'autre. C'est vraiment faire confiance aussi à son cœur, s'écouter et accepter ce qui est. Tant
Oui.
qu'on n'a pas accepté ce qui est, on ne peut pas avancer, on ne sait pas quoi en faire. Une fois de plus, vous n'êtes pas responsable dans la vie de tout ce qui vous est arrivé, mais vous êtes toujours responsable de ce que vous en faites. Là-dessus, vous avez du pouvoir. Alors, soit vous vous dites tous les jours, c'est pas juste, c'est pas normal, je veux pas, j'accepte pas, et vous entretenez une sorte de spirale, j'allais dire plus que négative, douloureuse. Soit vous essayez d'en apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que je peux en tirer comme apprentissage? Comment est-ce que je peux avancer avec ça?
Oui, alors je suis plutôt là-dedans, moi. Voilà. Mon problème, si vous voulez, c'est alors je suis quelqu'un de plutôt exigeant, perfectionniste.
Eh oui, c'est le package.
Ouais.
Contrôlant,
Et
contrôlante.
oui, et j'ai horreur. Je suis très rapidement méprisante quand les gens ne sont pas à la hauteur.
Eh oui, parce que
Alors, vous savez,
vous êtes comme ça avec vous-même en premier.
oui.
Eh oui.
Alors,
Et quelque chose me dit
c'est
que
pour
vous êtes
ça
bien.
qu'avec les médecins, c'est difficile.
Quelque chose me dit que vous êtes bien plus attentive aux autres qu'à vous-même aussi.
Oui.
C'est le package complet.
J'adore.
Oui, bah
Oui.
oui.
Oui, j'aime mes clients. Oui. J'ai des relations géniales avec mes clients. Oui. Ça, c'est merveilleux. Oui. Mais c'est vrai que oui, et puis moi j'attends autant
Des autres.
des médecins,
Et
oui, et
oui.
puis quand les gens ne sont pas à la hauteur, oh, c'est minable quoi pour moi. Ouais.
Alors c'est
Je leur
là,
dis.
c'est oui, mais c'est là aussi qu'il faut apprendre à lâcher. Vous ne changerez pas les gens, vous ne changerez pas les autres. Si ça ne vous convient pas, c'est votre droit. Dans ces cas-là, vous faites exactement ce que
Je
vous avez
change.
fait, exactement. Vous cherchez vous-même un
Oui.
autre chemin. Un
Oui.
chemin parallèle, un chemin différent, d'autres rencontres,
Oui.
en
Oui.
l'occurrence d'autres thérapies en complémentaire.
Oui.
Et c'est très bien comme ça.
Oui.
Ça, c'est lâcher prise.
Oui.
Vous voyez, ça ne veut pas dire laisser tomber, ça veut dire ok, c'est comme ça, je ne vais pas me battre pour rien. Il y a des combats qui ne servent à rien de mener,
Oui.
à part nous épuiser. J'accepte ce qui est, j'accepte ce qui m'arrive, ça ne me convient pas comme ça, eh bien je me trouve un autre chemin. J'ai encore cette force-là.
Oui. Et puis pas se battre comme des moulins à vent, quoi, en fait.
Exactement.
Oui.
Ne pas se tromper de combat.
Oui, pas perdre de temps ni d'énergie. Oui.
Et non, vous en avez besoin pour vous, surtout.
Oui. Oui.
Et puis je vous dis, concernant votre ami, laissez le temps au temps. Laissez la vase se reposer pour que l'eau soit plus claire.
D'accord. Oui, c'est une belle image. Ben, merci.
Je vous laisse partir avec cette belle image, alors, Marie-Pierre.
Oui,
Bon,
super.
je vous embrasse très fort.
Merci, merci.
Prenez bien soin de vous.
Merci.
De vous d'abord,
Merci.
hein?
Oui.
Bon, merci.
Merci.
Merci à vous.
Merci infiniment. Merci.
La libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin accompagne vos nuits.
Cindy et Nicolas attendent vos appels au 3921. N'hésitez pas, si vous avez envie de parler ce soir, de venir prendre la parole sur notre libre antenne 3921 et je vous accueille dans ce studio comme j'accueille maintenant Monique. Bonsoir Monique.
Bonsoir Sabine. Très heureuse de vous avoir.
Soyez la bienvenue Monique, je suis ravie de faire votre connaissance.
Et moi, non, je suis pas oh, j'ai envie de pleurer tout d'un coup.
Ah bah, j'espère que ce n'est pas à cause de moi.
Non,
ah.
Non, 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 au
ah
contraire.
Bon. Bon.
Vous êtes un réconfort. C'est
Alors.
parce qu'en ce moment, je suis perdue. J'ai plus aucun goût.
Pardon, Monique, par contre, je ne vous entends pas très très bien. Est-ce que vous pouvez parler peut-être plus près du téléphone, s'il vous plaît?
Ben, je parle plus près.
Ah,
Comme
c'est.
ça va?
Vous êtes parfaite, ne changez rien.
Ah bon, merci, merci.
Qu'est-ce qui vous arrive alors, Monique?
Ben, c'est-à-dire, j'ai beaucoup de problèmes de santé depuis des années. Et puis alors, ce confinement, tout ça, ça m'a été terriblement, terriblement, ça m'a fait vieillir, je ne sais pas combien d'années.
Dans quel type de logement êtes-vous?
Dans un appart.
Ah oui, donc c'est ça t'est long, effectivement.
Alors, pas beaucoup de sorties, j'ai
Ouais.
beaucoup d'arthrose. Alors, vous savez, quand une personne âgée ne circule plus tous les jours, ça accentue le problème, etc.
Mais depuis que c'est fini, vous ressortez quand même un peu?
Ben oui, je suis ressortie, oui, parce que j'ai quand même quelques amis, on joue aux cartes.
Ah, ça
Et
c'est bien.
maintenant, je suis tombée, je me suis fracturé le poignet.
Ah zut. Mais je peux me permettre de vous demander votre âge, Monique?
J'ai 85.
85 ans. Vous êtes jeune depuis très longtemps, dites-moi.
Ah, ben oui, c'est dur, vous savez.
Qu'est-ce qui est dur aujourd'hui pour vous, à part
Ben,
ce poignet-là?
c'est dur, c'est parce que j'ai une DMLA.
Ah.
Alors, je ne peux plus lire aucun courrier. Je ne peux plus lire des livres alors que je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça me manque terriblement.
Est-ce que vous savez
Et...
qui est-ce que vous utilisez les livres audio, les livres enregistrés?
Non, je n'ai pas encore essayé.
C'est quand même très agréable, ça.
Et puis, je ne peux plus aller au foot.
Vous alliez au foot?
Oui, j'allais au foot.
En fer ou en supportrice?
Non, non, quand je suis portrice.
Pour quelle
Quand
équipe?
je suis pas. Bon, c'est pour les sangs et or. Lance.
Ah oui.
J'étais abonnée pendant plusieurs dizaines d'années.
C'est drôle, ça. Qu'est-ce qui vous a plu dans le foot?
Oh ben tout, c'est mon papa qui m'a initiée. J'aimais beaucoup le sport, il m'a emmenée au foot, au cyclisme, partout. C'est mon papa qui m'a initiée au sport et j'en ai pratiqué même sur le plan régional. Et tout ça me manque terriblement.
Ben, j'imagine, oui.
J'aimais bien, j'ai peut-être 200-300 livres chez moi. J'aimais bien les toucher, les prendre, les remettre, etc., etc.
C'est vrai que tout ça, ce sont des petits deuils à faire, des petites. On en parlait juste avant, accepter que les choses,
Oui,
malheureusement, se terminent. Eh
j'ai
oui, eh
entendu,
oui.
oui, Marie-Pierre, oui. Mais c'est dur, vous savez.
Je sais que c'est dur, mais vous savez, là aussi, il y a deux manières de voir les choses. Moi, j'ai un papa que j'adorais qui est mort à 53 ans. Et souvent, je me dis, il n'a pas eu le privilège de vieillir. Alors, je sais que
Ah.
la vieillesse est compliquée, je sais que les maladies qui arrivent sont compliquées, que tout ce qu'on doit surmonter est douloureux. Mais je pense que c'est quand même une chance de pouvoir vieillir. D'avoir ce droit, cette autorisation-là de la vie. Lui, il ne l'a pas eu, vous voyez.
Ouais, ça c'est mourir trop jeune. Moi, mon papa est mort à 73 ans et ma maman à 98.
Oh, dis donc.
Je l'ai perdu il y a 14 ans.
C'est un long chemin.
Et maintenant, je suis toute seule.
Bah non, vous m'avez dit que vous avez quelques amis pour jouer aux cartes encore.
Oui, quelques amis, oui. Oui, j'ai quelques amis, j'ai surtout une amie depuis 60 ans qui me téléphone tous les jours.
Vous vous rendez compte, c'est rarissime ça.
Et moi, j'appelle aussi tous les jours.
60 ans d'amitié.
Oui. C'est une très, très bonne amie. On se soutient parce qu'on a des moments, et ce n'est pas les mêmes moments. Donc, on se soutient comme ça. L'une est un peu plus courageuse par moment. Et puis, l'autre...
Et oui, c'est l'autre qui prend le relais quand ça va moins bien.
Voilà.
Ça, c'est une chance énorme.
Oui, c'est vrai.
Quel genre de vie avez-vous eu, Monique ? Vous avez été mariée, des enfants ?
Ah non, je n'ai pas d'enfants. J'ai été mariée que quelques années. J'ai divorcé assez vite.
D'accord.
Non, j'avais que mes parents.
Il y a eu quelques hommes quand même, j'imagine.
Oui, quand même. Non, c'est un ami qui j'aimais beaucoup, très fort, mais qui, malheureusement, qui était un peu plus âgé que moi, qui a disparu au bout de 10 ans.
Mmh.
Mais là, c'est vrai que j'ai eu, pendant ce moment-là, une vie un peu beaucoup mieux que maintenant.
C'est-à-dire une vie avec un homme, c'est ça ?
Oui. Oui, et puis qui aimait le foot aussi, donc on allait beaucoup au foot partout, à Paris, à Lens, à Saint-Thé, enfin tout. Quoi.
Et là, vos copines, vous n'avez pas réussi à les convertir ?
Ah non, pas du tout.
Non, c'est
ils
pas...
sont totalement contre le foot.
Hermétique.
Même ma meilleure amie.
Zut alors.
Ah oui, je sais. Oh là.
Est-ce que vous arrivez quand même à écouter les matchs à la radio ou regarder à la télé ?
Ah ben oui, là j'ai écouté tout à l'heure Monaco-Marseille.
Bon, ça reste un plaisir ça quand même.
Oui, ça reste un plaisir, c'est vrai. Ça me fait quand même lire les livres, c'est terminé, pas du tout, mais le foot, j'arrive à m'intéresser surtout, bon... à la radio, un peu à la télé.
Mmh.
Mais tous les soirs, je regarde l'équipe.
L'équipe télé, vous voulez dire ?
L'équipe télé, oui.
Oui.
J'écoute pas le... pas de radio ni d'infos, mais le foot seulement.
Alors, il y a Lisa qui vous envoie un petit message en vous demandant « Pourquoi est-ce que vous ne pouvez plus aller voir les matchs ? Est-ce que quelqu'un pourrait vous accompagner pour aller les voir ?»
Et c'est-à-dire comme je ne le vois presque plus, je pourrais pas voir et puis il y aurait que l'ambiance.
Bah oui, mais l'ambiance, on la ressent fortement sur un terrain. Enfin, pas sur le terrain du Versy, mais au moins sur les gradins.
Moi, j'étais une passionnée de foot.
Ça pourrait peut-être être sympa, ça, de trouver quelqu'un qui accepte de vous accompagner une fois de temps en temps, voir un match. Vous imprégnez de l'ambiance, en tout cas, pour retrouver ça.
Bah oui, c'est-à-dire, mon médecin traitant, il est très foot. Il m'a dit qu'il allait m'emmener une fois.
Ah, bah vous voyez. Vous savez ce qu'on va faire, là, Monique ? On va dans quelques instants laisser la place aux infos.
Et puis, il est minuit.
Exactement. Et on va reprendre notre conversation et on va essayer de faire le point, non pas sur ce que vous n'avez plus, mais sur tout ce que vous avez encore.
Ah bon, d'accord.
Ça vous va comme deal, ça ? Ça marche ?
Oui, ça marche, ça va.
Ne bougez pas, je vous récupère juste après les infos.
Entendu, merci.
Merci à vous, Monique.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Pour la suite de cette libre antenne sur Europe 1. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin Et vous pouvez continuer à nous appeler tout au long de l'émission si vous avez envie de parler ce soir. Venez me parler de vous, de votre vie, de vos expériences, des obstacles que vous surmontez. Nicolas et Cindy attendent vos appels. 39-21, vous connaissez bien le numéro maintenant, 39-21. Si vous avez envie d'intervenir par SMS, de donner votre avis, d'apporter un soutien, de demander d'être mis en contact avec quelqu'un, vous faites le 7-39-21, suivi du mot nuit et de votre message. Et je vous rappelle notre adresse mail, libreantenne, en un seul mot, libreantenne@europe1.fr.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et c'est Monique que je récupère. Monique, êtes-vous là ?
Oui, je suis là, Sabine.
Alors, on avait décidé toutes les deux, avant les infos, de laisser l'ombre derrière et de se tourner vers la lumière, d'accord ?
D'accord, d'accord.
De regarder tout ce que vous avez encore dans votre vie qui est plutôt sympathique. Donc, vous avez cette passion pour le football ?
Oui, oui.
Ça, vous pouvez la vivre effectivement à la télé ou à la radio. Et vous m'avez parlé d'un médecin qui aime le foot aussi, votre médecin, et qui est prêt à vous accompagner.
Oui, enfin, une fois, pas toujours, hein, parce qu'il est encore en serre. Il est médecin traiteur, mais
bien
il a beaucoup de travail.
Sûr. Mais vous savez qu'il y a plein d'associations de quartier dans lesquelles vous pourriez vous faire connaître et demander si un jeune a envie de vous accompagner un soir. Ça peut être sympa aussi, ça. Faire savoir que vous aimeriez qu'on vous amène.
Ben, je fais partie d'une association où il y a beaucoup, mais il n'y a pas de trucs pour le foot.
Non, je pense qu'il faut, alors, il faut le faire. Il faut, vous savez quoi, le faire savoir simplement, même à vos commerçants. Juste le dire, écoutez, moi je suis une mamie qui aime le foot. Si vous avez un petit fils qui veut bien m'accompagner une fois de temps en temps, ce serait sympa.
Ah oui, c'est vrai que ça serait vraiment un plaisir, hein, parce que...
Vous n'avez rien...
C'est le seul qui me reste... que je n'ai plus les livres, malheureusement.
Non, c'est pas le seul qui vous reste, c'est pas vrai. Il y a vos amis, dont une depuis plus de 60 ans, ça c'est quand même énorme.
Oui, j'ai une amie depuis 60 ans, j'ai des amis que j'ai connus aux cartes, en allant jouer aux cartes toutes les semaines. Et puis j'ai un monsieur que j'ai connu aussi, qui est mes dires de copine, qui me rend beaucoup de services, qui est vraiment très gentil.
Ben, vous voyez.
Et qui, tous les ans, il me conduit sur la tombe de mes parents au mois de novembre, bien sûr.
Et ce monsieur-là, il n'aurait pas envie de vous accompagner à des matchs ?
Ben non, il
n'aime pas
non,
ça.
Non, parce que son métier, puis il n'aime pas trop ça.
Il n'aime pas trop ça.
Non.
Mais je suis persuadée qu'en parlant autour de vous, à vos voisins, à vos amis, à vos commerçants, il y aurait sûrement des enfants, des frères, des cousins qui pourraient avoir envie de vous donner un petit coup de main, de vous amener de temps en temps voir un match.
Ben, vous savez, j'habite une petite ville, mais les commerçants, maintenant, se font rares. Hein.
Oui, c'est vrai aussi.
Oh là là là.
Alors sinon, quand vous vous sentez seule, Monique, vous savez qu'il existe plusieurs associations où il y a des bénévoles qui viennent vous parler, vous écouter, qui sont supervisés par un référent de l'association, qui viennent vous voir et qui peuvent soit vous lire des livres, soit discuter avec vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait, ça ?
Oui, oui, oui. Il y a d'ailleurs, il y a 3-4 mois, il y a une dame qui m'a téléphoné et elle m'a envoyé deux jeunes filles pour faire mes comptes, parce que je ne peux plus faire mes relevés bancaires, je ne peux plus lire le courrier et tout. Et c'est des jeunes filles qui ont 6 mois, mais moi je ne les ai pas connues, j'ai connu que 2 mois à peine, et qui étaient formidablement gentilles.
Vous voyez, c'est aussi une façon de s'ouvrir à des nouvelles rencontres, ça. Il y a notamment l'association qui s'appelle l'association Astrée, comme un astre avec E à la fin.
Oui, Astrée et E.
Et leur numéro de téléphone, vous pourrez le retrouver si vous écoutez l'émission en podcast. C'est le 01 42 27 64 34. 01 42 27 64 34. Et ils vous envoient des bénévoles à domicile. Ça peut être régulièrement, par exemple, une heure et demie à 2 heures par semaine, pour discuter avec vous, vous donner des petits coups de main, justement, pour être là.
Oui, pour être là, c'est sûr.
C'est plutôt pas mal, ça.
Vous savez, ce qui m'arrive, c'est un changement de vie qui était terrible pour moi, parce que je suis une personne qui était très indépendante. Alors, c'était pour moi un coup de massue dont j'ai du mal à me sortir par moments.
Vous parlez là de votre problème de, aux yeux, c'est ça?
Oui, aux yeux. Oui, oh, oui, surtout ça.
Ça fait
le
quoi?
Reste.
Le reste, c'est la vieillerie normale, malheureusement.
Voilà, c'est ça. C'est la vieillerie normale.
Mais les yeux, ça a commencé quand?
Ben, ça a commencé il y a quelques années. Parce que ça fait plus de 5 ans que je ne vais plus au foot, que j'ai vendu ma voiture.
Ah, écoutez, vraiment, Monique, cette histoire de foot, moi, je trouve ça trop sympathique. J'ai envie de lancer un appel pour vous ce soir. Est-ce que vous voulez bien me dire dans quelle ville vous êtes?
J'habite Béthune,
oui.
Dans le Pas-de-Calais.
Eh bien, écoutez, si on a des supporters, des fans de foot qui accepteraient de vous accompagner de temps en temps voir un match, vraiment qui nous appellent, qui nous laissent un message au 739-21 avec le mot nu et le message derrière, ou alors, mieux encore, un mail, libreantenne en un seul mot, @europain.fr. Et si vous en êtes d'accord, on vous transmettra leur numéro de téléphone.
Parce que moi, j'ai pas d'ordi. Hein. Je peux plus me servir.
Ça, c'est pour eux. S'il y a quelqu'un qui accepterait de faire ça pour vous, il nous laisse un message et nous, on vous appellera pour vous donner son téléphone.
Ah, d'accord. Hein? Mais ce serait formidable.
Ah, j'adorerais. Et ce que j'aimerais beaucoup, si ça se passe, c'est que vous m'appeliez pour me raconter comment ça s'est passé après.
Ah, oh, bien sûr. Sabine, je vous écoute le week-end.
Bon, moi, si...
j'écoute mon foot et puis après j'écoute Sabine.
C'est gentil. Si j'étais dans votre coin, je pourrais même pas vous dire que je vous y amènerais parce que c'est pas mon truc du tout le foot. Vous voyez, je suis désolée, c'est pas ma passion.
Ah ben non, ça plaît pas à tout le monde. Hein.
Mais je suis persuadée.
Vous aimez peut-être le tennis.
Un peu plus, oui, c'est vrai. Mais je suis persuadée que là, parmi tous ceux qui nous écoutent, il y a quelqu'un qui aura envie de vous tendre la main et de vous accompagner voir un match ou plusieurs matchs.
Ben, y a une personne qui a téléphoné tout à l'heure, Lisa, c'est ça. Je la remercie.
C'est qu'il a envoyé un petit message pour vous, oui, tout à fait.
Oui.
Et puis, effectivement, si quelqu'un peut vous aider à vous abonner au livre audio, c'est très agréable, vous savez. Vous avez accès à tous les livres que vous voulez qui sont enregistrés. C'est une autre...
À toutes sortes de livres.
Toutes sortes de livres. Il y a une bibliothèque immense. Il y a plusieurs sociétés qui proposent ça. Et une fois que vous avez ça, c'est quand même très agréable, hein.
Oui, parce que ça, c'était un passe-temps pour moi formidable. La lecture, c'était pour moi.
Mais c'est pour ça que je comprends.
À minuit, 1h du matin, je lisais automatiquement.
On a beaucoup de messages pour vous, effectivement, de gens qui vous conseillent de découvrir cette lecture audio.
Ah, c'est vrai.
Les livres audio, oui. Oui, il y a beaucoup de gens qui vous envoient des petits messages pour vous faire un petit bisou aussi, pour vous soutenir.
Merci, je les remercie.
Vous dire que vous n'êtes pas seul ce soir, vous voyez.
Oui, je ne suis pas seule. Et puis j'ai vous, Sabine. Et puis Nicolas, qui est très gentil.
Et Cindy, maintenant qu'on a adopté cette saison, ça y est?
Oui, j'ai entendu.
On est trois?
Ah oui, j'ai entendu qu'il y avait Cindy maintenant.
Oui, ils sont super tous les deux, j'ai de la chance.
Ah ben, vous le méritez, Sabine.
C'est gentil, Monique.
Vous êtes formidable.
Vous aussi, j'en suis sûre.
C'est un réconfort pour moi de vous écouter.
Bah écoutez, Monique, la porte est ouverte quand vous voulez. J'espère, je croise les doigts vraiment pour qu'il y ait des supporters, des fans de foot qui vous tendent la main, qui vous amènent voir des matchs. Vraiment, vraiment. Je suis persuadée qu'on aura des appels et qu'on vous contactera.
Ah, oh, mais ça serait formidable, Sabine. Ça serait vraiment... Pour donc, moi, c'est j'adore ça, le foot, ça, depuis mes 20 ans, on découvre.
Donc, si vous le permettez, on va garder votre numéro de téléphone quelques jours, parce que vous savez que l'émission est beaucoup écoutée dans les jours qui suivent en podcast. En replay.
Podcast, oui.
Et donc, il y a souvent des gens qui réagissent dans les jours qui suivent. Et le week-end prochain, Cindy ou Nicolas vous appelleront pour vous transmettre le numéro de téléphone des gens qui je suis sûre, vont se proposer de vous amener voir un match.
Ah, bah, ce serait formidable, ça.
Et puis, vous me tenez au courant pour la suite, d'accord?
D'accord, merci.
Et je serai toujours là pour vous, Monique, quand vous voulez.
Ah, ben, bah, c'est très gentil, Sabine. Vous êtes vraiment un réconfort immense pour moi et pour beaucoup d'autres.
C'est gentil, Monique. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une douce nuit.
Merci, je vous embrasse très fort.
À bientôt, Monique.
À bientôt, merci. Merci beaucoup.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Et n'hésitez pas à nous appeler 3921. Cindy et Nicolas me disent que c'est très calme ce soir au standard. Profitez-en, j'aurai le temps de vous accueillir. Et bonsoir à vous, David.
Bonsoir Sabine.
Oh, quelle belle voix.
Oh, c'est la voix de quelqu'un un peu fatigué que vous avez au téléphone ce soir.
Ah, qu'est-ce qui se passe?
Oh, fatigué parce que je dors pas très bien ces derniers temps. Je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé.
Ouais.
J'ai mon ex-compagne avec lequel j'ai vécu pendant 27 ans qui a fait un burn-out fin janvier, en début d'année, donc il y a à peu près 7 mois. Et donc, elle a fait ce burn-out parce qu'elle était éprouvée de certaines choses, hein, les choses de la vie, à la maison, au travail, un peu la famille, peut-être
aussi un petit peu moi. Comment vous différenciez burn-out et dépression, vous ?
Oh ben, moi, je ne fais pas trop de différence. Hein, le burn-out, moi, je l'ai connu quand ça lui est arrivé. Voilà. Donc, elle m'a dit qu'elle avait fait un burn-out. Hein.
Okay.
Voilà, personnellement, c'est une dépression, on est bien d'accord.
Ben, je pense, oui.
Oui, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé en quelques heures seulement, un matin.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Ma plus jeune fille, qui va avoir 16 ans dans quelques jours, une fois de plus, n'a pas voulu se lever le matin pour aller à l'école. Donc, elle a piqué une colère. Donc, on va dire ma femme, hein, même si nous n'étions pas mariés. Je la considérais comme ma femme après pratiquement 30 ans de vie commune.
Oui.
Eh bien, donc, ce matin-là, ma femme m'a piqué une colère encore plus importante que d'habitude. Elle s'est battue pour que ma fille, pour qu'elle se lève et puis qu'elle aille en cours. Et puis, en fin de compte, elle n'a pas réussi à, une fois de plus. Hein, donc, ça faisait plusieurs mois déjà que c'était très délicat. Et donc, ce matin-là, la touche du noir. Elle arrivait à son travail en pleurant. Là, ça avait commencé la dépression. Ça n'allait pas du tout. Sa patronne m'a appelé. Moi, j'ai été à mon travail assez loin, donc je suis pas revenu tout de suite. Et voilà. Donc, elle est restée plusieurs jours comme ça, à se reposer à la maison, sans dire mot. Et ben, moi, je savais pas trop ce qui se passait. Hein.
On se sent impuissant hein, quand c'est comme ça.
Ah, c'est fou puisque j'avais jamais connu ça. De près en tout cas, et donc je l'ai laissé tranquille pendant quelques jours, et puis en fin de compte j'aurais dû m'occuper d'elle. Ça me l'a dit après, bien sûr hein. Mais en tout cas voilà, c'est après quelques jours donc elle est partie voir un psychiatre, et quand elle est rentrée de chez le psychiatre, elle m'a dit voilà, j'ai un mois d'arrêt. J'ai pas forcément pris ça très bien. Parce que donc, ben, je me suis rendu compte que c'était quand même assez grave.
Mmh.
Donc je me suis un petit peu emporté. Et puis le fil en aiguille, quelques jours après, elle m'a dit, c'est simple, c'est fini entre nous. On arrête là. Voilà, on vend la maison, etc. etc. Enfin, c'est terminé. Ça a donc été très brutal. Hein, tout ça s'est passé en l'espace, on va dire, d'une dizaine de jours, pas plus. Hein.
Mmh.
Voilà, donc très surpris, choqué même. Par son attitude, parce que nous nous entendions bien, il n'y avait pas de problème particulier. Et l'amour était présent entre nous, ça c'est sûr, ce n'est pas une impression que j'ai, c'est sûr, on ressent les choses. Hein. Après de longues années passées à côté l'un de l'autre, on sait ce qu'il en est, quand ça va ou ça ne va pas, en l'occurrence, ça allait bien.
Donc ça veut dire qu'avant ce jour de où ça a lâché, vous n'avez rien senti venir ?
Absolument rien.
Pas de signe précurseur, pas d'attitude bizarre, de réaction un peu disproportionnée, non rien.
Peut-être un petit peu plus, un peu moins calme que d'habitude au niveau de son comportement.
Mm-hmm.
Mais bon, ce depuis quelques mois, on va dire, avant le burn-out. Mais
rien d'affolant, quoi.
Absolument rien d'affolant et surtout pas de mots déplacés, rien du tout. Hein. Ce qui ne fut pas la. Le cas après le burn-out. Donc j'ai réagi d'une certaine façon quand je vous ai dit qu'elle est revenue, quand elle est revenue de chez le psychiatre. Pour moi, un psychiatre, je ne savais pas trop ce que c'était. Hein. Je me suis dit, bon, quand on va voir un psychiatre, c'est qu'on est fou.
C'est qu'on est fou, voilà. Mais ça c'est le cliché classique.
Exactement. Donc, je me suis dit, ça y est, elle est folle. J'en rigole aujourd'hui parce que ce n'est pas le cas. Mais c'est... Voilà, en tout cas, je... Mais pas en entendre parler et puis.
Comment vous avez réagi? Ça me paraît un pivot important de cette histoire-là. Vous me dites, j'ai pas très bien réagi. Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, c'est simple. Je me suis dit, eh bien, va falloir que Ça veut dire qu'elle va être comme elle l'a été pendant quelques jours, elle va rester comme ça. Et je me suis dit par la suite, est-ce que ça va encore durer un mois de plus, 2 mois de plus, 6 mois de plus, une année de plus? Je me suis senti un petit peu perdu parce qu'il fallait quand même s'occuper de la maison, des enfants, même s'ils étaient ados. Il fallait s'occuper des enfants et puis du chien, etc., etc. Faire les commissions, s'occuper de la maison, etc. Enfin, faire ce qu'on fait à deux habituellement. Là, il fallait tout faire. Hein, en plus de mon travail, je me suis dit ça va aller quelques temps, mais je pourrais peut-être pas assumer jusqu'au bout. Voilà. Donc
vous m'avez dit, je me suis emportée.
Ah, quand je me suis emporté, j'ai dit quelques mots désagréables.
C'est-à-dire ?
Et que je ne dirais pas à l'antenne, quelques grossièretés. Mais attention, ça a duré 10 secondes et 5-6 mots.
Non, mais l'idée, c'était quoi ? C'était contre elle ? C'était la colère ? C'est la peur ? C'est quoi qui sortait, d'après vous, maintenant, avec le recul ?
Très honnêtement, je ne peux pas vous dire la sensation. Je sais que je me suis emporté sur le coup, mais... Je peux pas vous dire si c'était...
C'est le fait de vous être senti perdu comme ça qui vous a fait un peu craquer ?
Oui, c'est ça, c'est ça. Senti perdu, il n'y a pas d'autre mot, c'est ça. Maintenant, vous dire la colère, non, je ne pense pas, mais ne pas savoir quoi faire, quoi. Déjà que j'avais pas su faire ce qu'il fallait faire dès le départ.
Alors justement, ça m'intrigue. Vous m'avez dit, je ne me suis pas occupée d'elle pendant un mois, je l'ai laissée tranquille, et elle me l'a reproché. Qu'est-ce qu'elle aurait attendu ? Qu'est-ce qu'elle aurait voulu à ce moment-là ?
Ben que je vienne lui parler, parce qu'effectivement, je ne lui ai pas parlé quand je rentrais du travail en fin d'après-midi. Je faisais ce que j'avais à faire à la maison. Et puis j'allais me coucher directement, sans dire mot. Mais bon, c'est donc elle m'a fait ce reproche. Hein. Si je vous dis les mots exacts qu'elle m'a dit et redit de très souvent, jusqu'il n'y a pas encore trop longtemps de cela, elle me disait « Tu m'as laissé crever pendant ces 3 jours. » Les 3 jours où elle a commencé sa dépression, qu'elle a été allongée sur le canapé. Hein. Et voilà. Elle aurait voulu que je vienne lui parler, la réconforter. Je ne l'ai pas du tout fait. Au contraire, j'ai...
Et pourquoi, d'après vous ? Là aussi, c'est de la peur ?
J'ai fui ce problème, oui, de la peur, surtout que...
Ou de ne pas savoir quoi dire et quoi faire, peut-être aussi. Ouais.
Ben voilà, c'est ça. Ne pas savoir quoi faire, quoi dire. Et puis je me suis dit, ben, ça va peut-être durer quelques jours et puis après, ça ira mieux. Et non, pas du tout.
C'est vrai que dans ces cas-là, quand on ne sait pas quoi faire ou quoi dire, la meilleure chose, c'est de demander. C'est de le dire. C'est de dire, voilà, je suis perdu, moi aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?
Oui. Ben, je sais bien. Et justement, je lui ai pas dit mot, mais alors elle m'a dit, alors je me suis permis de lui faire le même reproche. Je lui ai dit, mais attends, quand j'étais près de toi, tu aurais pu aussi me parler, ou m'appeler pour qu'on parle. Tu n'as pas parlé non plus. Le midi, on s'appelait pendant notre coupure, l'un et l'autre, hein, à notre travail. On s'appelait quasiment tous les jours pour donner des nouvelles de nous déjà, puis des enfants aussi. Et puis, là, c'est vrai que pendant quelques jours, il n'y a pas eu de contact. Hein. Je ne l'ai pas appelé. Pourquoi, je ne sais pas, je ne sais plus. Sûrement, je devais être désemparé. Et puis, elle, de son côté, ne l'a pas fait non plus.
Parce que quand on est dans une dépression, on s'enferme complètement soi-même.
Ben oui, mais je ne le savais pas.
Donc, s'il y en a un qui dit rien et l'autre qui l'écoute, ça peut durer longtemps.
C'était à peu près ça.
Ouais.
Voilà, donc on va dire que quelques semaines après, on était donc encore sous le même toit. Elle me dit, voilà, on se sépare, c'est fini, notre histoire s'arrête là. 27 ans de vie commune, c'est bien, maintenant on doit passer à autre chose.
Elle a eu des arguments plus creusés que ça ?
Non.
Ah.
Non. Non, pas vraiment. Non, pas des choses valables, en tout cas. Et c'était très violent, c'était comme ça. Alors forcément, mes bras en sont tombés, hein. C'est qu'à le dire quand on m'a dit ça. Alors moi, par contre, je suis rentré dans un mutisme terrible pendant encore de longues semaines. On est encore sous le même toit, mais forcément, elle m'ignorait totalement. Elle faisait tout pour ne pas me parler. Elle m'évitait. Elle voulait pas de contact. Voulait pas discuter avec moi, rien du tout. jusqu'à son départ, à peu près un mois et demi après, après le début de sa dépression. Je l'ai surpris en train de discuter sûrement avec sa maman au téléphone, j'imagine, en disant, voilà, attention, il va bientôt être en vacances, il va avoir 10 jours de vacances, ça va être terrible, ça sera pas supportable, je sais pas ce que, il faut que je parte, hein. ça peut plus durer. Il faut savoir que moi, j'étais absolument neutre, je m'étais renfermé sur moi-même à ce moment-là, c'est-à-dire que j'étais présent, mais sans m'imposer, c'est sans trop dialoguer.
Pas d'agressivité, pas de menace, rien du tout.
Absolument pas. Bon. J'étais totalement neutre, j'étais présent, j'étais là et absent. Comment vous dire ? C'est-à-dire que j'étais là, mais...
Enfermé à l'intérieur de vous-même, quoi.
Ah bah oui, bah oui, absolument.
Et les enfants pendant ce temps-là ?
Alors les enfants, eh bien c'est simple, les enfants étaient la grande entre guillemets qui a 19 ans, enfin oui, c'est cette année, donc la grande qui vient d'avoir 19 ans, elle de son côté, ça l'a marqué pas plus que ça. Par contre, celle de 16 ans, ça l'a dérangé un petit peu. Alors par contre, ma femme était très présente. Elle m'a dit, je m'occupais de mes enfants et que de mes enfants. Alors ça, elle me l'a répété pendant des mois et des mois. Je m'occuperai de moi et de mes enfants uniquement.
Mais concrètement, est-ce qu'elle a repris le travail? Est-ce qu'elle avait l'intention de trouver un appartement, un logement? Comment elle voyait les choses, elle?
Ah ben, disons que, oui, suite à sa conversation, quand elle a dit ça, je vais pas pouvoir tenir, comme si j'étais attentionnaire ou que j'étais méchant. Bref, il fallait vraiment qu'elle parte, hein, c'était très urgent. Eh bien, elle est partie quelques semaines après, hein, on va dire au mois de mars-avril.
Mais elle est partie comment et où?
Alors, elle est partie à côté, à 2-3 kilomètres d'ici. C'est sa maman qui lui a trouvé une maison, qu'elle lui a louée. Alors, ma femme n'a pas travaillé pendant 6 mois. Elle a repris son travail il n'y a pas très longtemps, hein, fin août, hein, dernière semaine d'août. Vous voyez, il y a donc 3 semaines de ça à peine. Et donc, elle avait repris à temps plein pendant une semaine. Et puis ensuite, elle a eu un mi-temps thérapeutique.
Voilà. Et les enfants sont partis avec elle ou pas?
Oui, absolument. Les enfants sont avec elle. Voilà. Et alors moi, je me retrouvais seul dans la maison. Je ne vous raconte pas. C'était pas forcément facile à vivre.
Mais qui a décidé pour les enfants?
Qui a décidé? Ben c'est elle. Mais c'était préférable. C'était préférable dans la mesure où quand même le peu que je pouvais constater, elle était quand même capable de s'en occuper. J'ai bien dit capable de s'en occuper, pas forcément parfaitement, hein, comme ça aurait dû être fait, pas comme je l'aurais aimé, on est bien d'accord, comme ça aurait dû être fait, mais bon, elle s'en est bien sortie, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas trop été choqués par ses comportements un peu bizarres, un peu excessifs quelquefois.
Elle les a pas montés contre vous quand même?
La grande, oui. La grande, celle de 19 ans, absolument. Absolument. Mais ça va mieux. Ça va mieux depuis à peu près, on va dire, 6 semaines. Voilà, mais avant, quand je voyais ma fille de 19 ans, elle m'aboyait dessus, hein, tout simplement. C'était des reproches.
Mais quoi, toujours les mêmes. Oui, c'est quoi comme reproche?
Ouais, toujours les mêmes. C'est pas bien, comme tu as parlé à maman, c'est pas bien. Ben oui, effectivement, c'est pas bien, mais on va pas non plus le rabâcher pendant 12 ans. Hein. C'est quelques mots que j'ai dit, effectivement, ça a meurtri ma femme dans l'état où elle était. J'imagine qu'elle a pris ça comme des coups de canon, hein. C'est même sûr, hein. Mais comme elle l'a répété à diverses personnes, et puis que ma fille était sûrement proche d'elle à ce moment-là, elle l'a entendu maintes et maintes fois, et ce qui fait que voilà, elle m'a beaucoup critiqué auprès de tout le monde. Je suis passé pour un bourreau. Bon, seuls les gens qui me connaissent parfaitement savent un peu ce qu'il en est. Mais ceux qui me connaissent moins, ses collègues de travail, par exemple, même si je les connais, hein, bon, ils ne se connaissent pas forcément trop bien, ils ont pu se poser des questions sur moi par rapport à ce qu'elle a dit, mais tout était amplifié. Et elle avait peur de moi, elle a eu peur de moi jusqu'au, il n'y a pas très longtemps, il y a encore quelques semaines de ça, elle avait peur de moi.
Mais comment ça, elle vous l'a dit ?
Elle me l'a dit, c'est surtout elle me l'a dit, des gens autour d'elle, à qui elle se confiait, me l'ont dit, qu'elle avait peur de moi. Sa maman, par exemple, avec laquelle je m'entends parfaitement bien, qui n'a pas pris parti ni pour sa fille, ni pour moi.
Ah, c'est rare, ça, dites-moi.
Eh oui, je peux même vous dire qu'aujourd'hui, j'habite chez elle.
Ah ben non.
Chez sa maman. Voilà, avec lequel on maintient des rapports meilleurs ces derniers temps, mais qui furent très très délicats pendant une période de 3 ou 4 mois. Hein. C'est-à-dire qu'elle lui parlait plus, et le peu de fois qu'elle la voyait, sa maman, pareil, elle était méchante avec elle, elle tenait des propos très désagréables, haineux, ce que j'ai vécu moi pendant plusieurs mois. Mmh. Et elle aussi a eu sa part de Ça part de choc.
D'agression. Hein,
oui, là, c'était fou. Hein. Et voilà, donc, c'est pas pour ça que je vous dis qu'elle n'a pas pris de parti pour l'un ou pour l'autre, mais c'est qu'elle me connaît quand même. Hein. C'est sa maman, pour ma femme, c'est quelqu'un auquel elle tient beaucoup, c'est quelqu'un qu'elle a toujours préservé. Et donc, qu'elle appelait régulièrement, si ce n'est pas tous les jours, quasiment tous les jours, là, vous imaginez-vous qu'elle ne l'appelle pas, ne l'a pas appelée pendant un mois. Et puis, elle habite juste à côté, à quoi, 5 minutes de chez elle, elle ne passe même pas la voir. Elle aurait pu, pourtant, puisqu'elle n'a pas travaillé pendant des mois, elle avait le temps de passer quelques fois. En allant chercher les enfants à l'école, par exemple, elle aurait pu s'arrêter quelques fois, mais non, pas de son, pas d'image.
Comment se fait-il que vous habitez chez votre belle-mère ?
Parce que la maison a été vendue il y a quelques jours. Lundi, donc ça fera 2 semaines lundi prochain. Et ce qui se passe, c'est que j'avais le choix. Soit je partais en province, retrouver ma famille, mes parents, ma grande fille de 31 ans, mon frère et puis leur conjoint. Enfin bref, j'aurais pu me rapprocher de la famille en province à 400 km d'ici et puis redémarrer quelque chose. Et pourtant, j'ai décidé de rester là. De rester là parce que je me suis dit peut-être qu'avec le temps, les choses pourraient s'arranger.
Ah, vous aviez encore un espoir.
Oui, j'avais un espoir, tout à fait. J'avais un espoir. Pourquoi j'avais un espoir ? Parce que on est bien d'accord, pendant une période de 5-6 mois, c'était catastrophique. C'est-à-dire qu'elle avait une haine terrible contre moi et peur de moi. Et on a pu reprendre contact, je vous dis, fin juillet, début août. Mmh. Attention, on n'est qu'à 2 kilomètres l'un de l'autre. Hein. La maison qu'elle a prise par la suite se trouve juste à côté de la commune où j'habite. Hein. Et donc, on a pu passer quelques heures ensemble et j'ai pu constater un petit peu son comportement vis-à-vis de moi qui était quasiment normal au départ, les 2 premières heures par exemple que nous avons passées ensemble avec ou sans nos enfants qui venaient et qui repartaient de temps en temps. Et j'ai bien vu qu'après 2-3 heures, son regard s'est assombri, son visage s'est fermé et je lui ai même posé la question, je lui ai dit « tu es peut-être un petit peu fatiguée ». Elle m'a dit « non, ça va », mais j'ai bien vu qu'elle avait changé d'attitude, elle était rayonnante, elle était bien au départ, et après s'est refermée sur elle-même après quelques heures.
Et vous n'avez pas abordé un sujet sensible ou
Pas du tout.
Est-ce que ça ne serait pas lié aux médicaments qu'elle prend aussi ? Vous avez pensé à ça ?
C'est possible. Mais malheureusement, vous savez qu'une fois qu'elle est partie de la maison, donc il y a quelques mois, j'ai pas pu avoir trop d'informations. Bon, aujourd'hui, je suis un peu dans la confidence mais pendant très longtemps, elle voulait pas me parler de ce qu'elle faisait, ou bien elle me mentait. Elle me mentait beaucoup sur les choses qu'elle faisait, qu'elle ne faisait pas.
Vous savez
Il y a une part de mensonge extraordinaire, mais des trucs flagrants. Alors, Voilà, alors après on se pose des questions, puisque on est face à beaucoup de mensonges. Est-ce que le fait de dire j'ai plus du tout de sentiments pour toi, j'ai le cœur vide pour toi, pour tout le monde, je m'occupe que de moi et de mes enfants, ben on se dit est-ce que c'est après tout, est-ce que c'est pas ce mutisme, enfin c'est cette façon d'être et de le dire, est-ce que c'est pas aussi un mensonge entre guillemets, ou enfin c'est là que je me suis posé quelques questions et c'est pour ça que aujourd'hui je suis encore ici
perdu
non mais dans l'attente dans l'attente et plutôt l'espoir de qu'elle me dise exactement son ressenti au moins sur les choses qu'elle m'a fait ressentir et qu'on m'a dit mon propos, qu'on m'a dit qu'elle a peur de toi. Je vais vous donner une petite anecdote par exemple. Une fois qu'elle a déménagé, c'était donc au mois d'avril, donc on va dire 2-3 mois après le début de la dépression, je l'appelle 2-3 jours après son déménagement. Elle habite, on est bien d'accord, à 2 km de notre ancienne maison où j'habitais seul. Je l'appelle, je dis voilà, j'ai reçu une lettre commandée, il faudrait que tu passes la prendre, c'est sûrement important. Mais il dit ok, d'accord, bah je passerai. Bon, effectivement, elle est venue. Et puis, je voulais lui faire signer un document par rapport à la maison, un truc important. Je lui dis voilà, il y a ça à régler, il faudrait que tu me signes ce document. Et elle me dit oh, non, pas du tout. Méchamment, elle me dit comme ça, jamais elle a été méchante. Hein, c'est quelqu'un de très, très calme. Elle me dit non, je ne signerai pas ton papier. Toi qui me l'envoyais par la poste, on verra ça plus tard. Je veux bien l'envoyer par la poste, hein, mais...
C'est un peu bizarre, oui.
Elle est là, puis elle est qu'à 2 km. Donc ça m'a marqué. Hein. Et puis, après, je lui dis, écoute bien, si tu veux pas signer ce document, tu n'auras pas ta lettre commandée. Comme je vous le dis au téléphone, sans rire, sans moquerie, mais sans aucune agressivité. Mmh. Je garde la lettre en main. Elle me dit, tu vas me donner cette lettre. Comment ça a piqué une colère terrible, les yeux noirs. J'appelle la police. J'appelle tout de suite la police. Je lui dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, tiens, voilà ta lettre. Mmh. Et elle a signé le papier. Mais enfin, vous imaginez un petit peu la réaction, mais jamais, au grand jamais, j'ai connu...
On est arrivé jusque-là, oui. Vous savez, David, quand on va mal, notre cerveau primaire, le cerveau reptilien, a trois façons de réagir.
Oui.
La lutte, la fuite ou l'inhibition. Et quand je vous écoute, votre femme, elle navigue entre les trois. La lutte, c'est l'agressivité.
Oui.
La fuite, ben voilà, vous l'avez connue. Et l'inhibition, c'est la dépression, c'est je me replie sur moi-même.
Oui.
Et elle, le problème, c'est qu'elle n'est pas passée par des phases, elle passe en permanence par ces trois phases.
C'est ça.
Et vous êtes au milieu, un peu comme une girouette, obligé de regarder à droite, à gauche, devant, par quel coup, par quel bout ça va vous tomber dessus, quoi.
C'est ça.
Et c'est très compliqué de vous positionner par rapport à ça, puisque vous ne savez jamais quel comportement elle va... J'allais dire adopter, c'est même pas qu'elle va l'adopter, parce que ce n'est pas un choix probablement conscient de sa part.
Oui.
C'est qu'elle traverse une maladie qui n'est pas facile.
Oui.
Que peut-être au niveau des traitements, il y a des choses qui sont à régler, dans ce que j'entends.
Oui.
Mais en tout cas, il est très clair dans votre récit qu'elle passe son temps entre l'agressivité, la fuite et le renfermement sur elle-même, quoi.
Oui. Alors, le renfermement sur elle-même, ça n'empêche pas donc d'avoir repris son activité. Bon, maintenant...
Mais ça fait des mois, maintenant.
Pardon ?
Ça fait des mois, maintenant, quand même. Le temps a passé.
Oui, c'est vrai, oui, effectivement, oui. Son burn-out s'est arrivé fin janvier, vers le 23 janvier.
Oui.
Elle a pris son travail, comme je vous ai dit, fin août, hein, il n'y a pas très longtemps. Et bon, ça a l'air de bien se passer. Maintenant, je ne suis pas non plus derrière elle à essayer de savoir comment ça se passe, mais a priori, ça va, par rapport à ce qu'elle me dit. Et puis, elle sort. Hein, elle sort ce soir, par exemple, elle est sortie. Elle est partie avec une copine faire la Java. C'est pas un problème. Hein, ça me gêne pas du tout. Puisque nous ne sommes plus ensemble, elle fait ce qu'elle veut. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment très particulier parce que j'ai eu en face de moi quelqu'un de... à l'opposé de la personne qu'elle était, déjà pour commencer. Mmh. Et puis après, son attitude n'a pas forcément trop changé. Maintenant, avec moi, l'entente est bien meilleure, mais il suffit d'un rien J'ai bien dit, il suffit d'un rien pour qu'elle se replie à nouveau sur elle-même ou qu'elle soit à nouveau agressive. Et combien de fois j'ai entendu ce mot agressivité, tu es agressif, alors que pas du tout. Je ne sais pas d'où est venue cette peur. Je peux vous raconter encore une anecdote qui m'a marqué.
Bien sûr.
Une nuit, notre chien est à la maison, il s'est mis à aboyer, mettons à 3 heures du matin, donc on est bien d'accord. Elle ne travaillait pas, je travaillais, mais enfin, quoi qu'il en soit, je ne travaillais pas cette nuit-là, mais je lui ai demandé si elle pouvait s'occuper du chien ou aller voir ce qui se passait. Alors, elle m'a dit, le jour où tu m'as dit ça, l'histoire du chien, là, toute la nuit, elle a exagéré les choses, mais de façon considérable, puissance 10 ou 100. Elle m'a dit, la nuit que tu m'as fait passer, ça me l'a répété pendant de longues semaines ou de longs mois, cette nuit, je n'oublierai jamais la nuit que tu m'as fait passer avec le chien. Alors que j'ai simplement dit, est-ce que tu peux t'en occuper, le chien aboyait, est-ce que tu peux regarder ou...
Pour vous, c'était anecdotique, quoi.
Ah ouais, mais oui, mais alors, ce truc-là, on m'en a parlé comme de cette phrase que je lui ai dit, ces mots que je lui ai dit qui étaient certes pas très agréables à entendre, mais cette colère qui a duré quelques secondes chez moi, attention, une colère, et puis après je suis parti. Quand je dis je suis parti, j'ai changé de pièce, hein, je ne suis pas resté là insistant à répéter toujours les mêmes choses. C'est que pour moi, tout s'écroulait. Enfin bon, c'était pas simple à gérer quoi. Après, hein. sans elle, elle faisait beaucoup de choses et ça, je ne le nie pas. Je me voyais faire un petit peu tout ce qu'elle faisait, plus ce que j'avais à faire et ce que je faisais avant. Et je me suis dit, ça va être dur de faire face si ça devait durer longtemps. Et en fin de compte, j'aurais pu faire face. Voilà, j'aurais pu faire face et puis j'aurais dû agir autrement. Mais je vous dis, je n'ai pas été conseillé. Et le jour où elle a fait ce fameux burn-out, hein, la veille, ça allait très bien. On était en famille chez un cousin. On avait déjeuné ensemble, passé l'après-midi très sympa en compagnie de sa femme. Et puis vraiment, c'était un dimanche comme un autre. Et ce fameux lundi matin-là...
Ça a lâché.
Sa patronne m'a appelé, elle m'a dit, tu sais, elle a les idées noires, elle voulait se suicider ou se foutre en l'air avec sa voiture. Enfin, ça m'a choqué de la façon dont elle m'a dit ça. Puis elle m'a dit, tu sais, j'ai connu quelqu'un dans ma famille, une femme aussi dans ma famille à qui c'est arrivé. Malheureusement, on n'a rien pu faire pour elle.
Alors, je raconte pas. C'est sympa de dire ça à ce moment-là, c'est rassurant. Ouais.
Je suis à mon travail, assez loin de la maison, à 80 km, on me dit ça, à 11h du matin. Je ne vous raconte pas. Le choc, c'est peut-être ça aussi qui m'a fait agir comme ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà les mots que j'ai entendus. Elle m'a dit, surtout, tu ne t'inquiète pas, elle est en bonne main, elle est avec une collègue, tout ça, chez elle, ça se passe bien. Et, oui, ça se passe bien. Moi, quand je suis rentré, elle était couchée à mort sur le canapé et ça n'allait pas, enfin, ça n'allait pas bien. Elle dormait ou... Je ne sais pas. En tout cas, ça n'allait pas trop bien, oui.
Est-ce que, même si c'est un sujet délicat, est-ce que vous avez cherché s'il y avait des pans de sa vie que peut-être que vous n'auriez pas connus? Est-ce qu'il ne se serait pas passé quelque chose?
Quelque chose quand? Pendant notre
Ces dernières années, oui, qui aurait pu faire qu'un mal-être qui s'est installé chez elle, qu'elle a étouffé, qu'elle a caché, qui est sorti à un moment donné où il y avait un trop-plein.
C'est une accumulation. Elle m'a fait le reproche de ne pas m'occuper assez de choses à la maison. Alors, moi, bien entendu, je me suis culpabilisé. Je me suis dit, oui, effectivement, j'ai été un bon à rien. Pour résumer la situation, je me suis dit, mais c'est vrai, disons, avec tout l'approche qu'elle me fait, j'étais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
Mais est-ce que c'est vrai que vous ne faisiez pas grand-chose à la maison?
Non, c'est pas vrai. Je me suis toujours occupé du minimum, on va dire, vital pour que ça fonctionne bien. Je me suis aussi occupé de mes enfants. Je me suis occupé. j'aimais bien mon chez moi. J'aimais bien l'environnement de vie. Donc, autant vous dire que je faisais tout pour que tout aille pour le mieux. Je ne laissais pas trop traîner les choses. Maintenant, le superflu, je disais toujours, ça peut attendre, on n'est pas pressé, on pourra voir ça le mois prochain ou l'année prochaine. Hein, refaire une cuisine tous les 5 ans, ce n'est pas primordial. Donc, voilà, on pouvait... Voilà. Mais non, je faisais ce qu'il fallait. Par contre, c'est vrai qu'elle avait une certaine pression de gérer les comptes, par exemple. Hein, c'est pas simple, hein, de gérer... C'est pas simple, hein, celle qui gérait tout, qui réglait des situations quelquefois qui étaient un peu délicates. Je sais que ça l'a miné un petit peu. Mais bon, c'est... Il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi... D'autres problèmes. Bon, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que...
D'ordre plus intime, vous voulez dire ?
Oui, voilà, c'est ça. Enfin, plus intime, c'est-à-dire ça reste dans la famille. C'est, voilà, elle avait un peu la pression de son frère qui était un petit peu... qui avait une maladie aussi un peu schizophrène, vous voyez, donc c'était pas très très simple, hein. Il habitait à côté de chez nous dans la même commune, et bon, ben, c'est vrai que c'était, elle se souciait beaucoup de son état qui parfois n'était pas trop bon, dans la mesure où il ne prenait pas forcément son traitement qu'on lui préconisait. Hein, tant qu'il prenait son traitement, ça allait à peu près, mais s'il ne le prenait pas pendant un laps de temps, c'est-à-dire quelques jours ou pendant quelques semaines, eh bien, ça pouvait vite dégénérer auprès de tout le monde. Hein,
donc elle était affectée par ça, vous pensez ?
Oui, très affectée par ça, et depuis de nombreuses années. Voilà. Et aussi... avec tout le respect que j'ai pour sa maman était peut-être trop présente, un peu étouffante au niveau de son investissement, voilà, un peu dans le couple, hein, vous voyez, pour que tout aille bien. Alors, elle a pris beaucoup de décisions, ce serait bien de faire ça, faire mettre ces meubles-là, faire ci, faire ça, changer ci, changer ça. Et bon, ben, pour faire plaisir à sa maman, ma femme... l'exécuter ou me le faisait exécuter. Alors bon, c'était pas forcément toujours ok, hein. Donc je me suis quelquefois pris de bec avec ma belle-mère, mais vous voyez, elle m'en tient pas rigueur. On a eu l'occasion de discuter maintes et maintes fois ensemble,
vous aujourd'hui, ça, David, vous en êtes
et puis son travail aussi très prenant, hein. Je vous rappelle qu'elle travaille tous les week-ends, elle travaille dans l'immobilier, ce qui fait que
Il n'y a pas de jour off.
Jusqu'au samedi soir, ouais. Voilà.
Mais vous, parce que j'ai un peu l'impression là, que vous êtes comme quelqu'un qui est resté au port et qui attend que le bateau revienne.
Ben, je ne sais pas. Disons qu'aujourd'hui, ben, je suis de plus en plus lucide sur les choses.
Ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait presque... On est quoi ? On est en septembre ? Ça fait 9 mois que ça a commencé ?
Ça fait 8 mois.
8 mois ?
Ça fait fin janvier.
Et la séparation physique ?
La séparation physique, ça fait un mois de moins, un mois et demi de moins, ça fait donc 6 mois et demi, quoi.
D'accord.
6 mois et demi, voilà. Non, je dis des bêtises, au mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait 5 mois.
Bon, à peu près. Et vous attendez quoi aujourd'hui maintenant ? Est-ce que vous le savez au moins ?
Écoutez, alors voilà ce qu'elle me préconisait dans ses derniers messages. Par SMS, elle me dit des choses qu'elle ne me dira pas de face, de visu. Et sur certains SMS, elle me disait justement de m'éloigner pour ne pas souffrir. Ça, elle me l'a dit à plusieurs reprises, mais en m'éloignant... Et elle sait très bien que si je m'éloigne, ce ne sera pas de 10 kilomètres, ce sera de plusieurs centaines de kilomètres. Elle le sait très bien où je partirai. Donc, en me disant ça, et en ayant un peu retourné mes filles contre moi, elle sait pertinemment que je ne les verrai pas d'aussitôt et pas souvent. Et elle non plus. Est-ce qu'elle a vraiment conscience de... Parce que pour elle, tout va bien. Attention. Oui, un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que la maison que nous avions, c'est une maison pour elle, c'était la maison de ses rêves. Vraiment, elle avait toutes les options qu'elle souhaitait, des terrasses, des machins. Enfin, elle adorait sa maison. Mais depuis quelques mois, quand elle venait là-bas, le peu de fois qu'elle venait, puisque je vous rappelle qu'elle avait peur de moi, elle me disait, cette maison, je la déteste. Je la déteste.
David,
il n'y a que des ondes négatives.
David, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous parle de vous, vous me répondez en parlant d'elle. Vous...
Excusez-moi.
Non, vous excusez pas, c'est juste pour comprendre que ce qui est important, c'est vous. Et je vous sens perdu. Oui. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, indépendamment de ce qu'elle vous écrit, ce qu'elle ne vous écrit pas, de ce qu'elle veut. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre bonheur à vous?
Moi, j'aurais voulu qu'elle soit, parce qu'elle n'est plus comme avant, ou plutôt elle n'est pas comme avant aujourd'hui. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'elle soit comme avant, avec moi. Je demande pas ce qu'on me saute au cou.
Donc vous êtes encore dans cette attente-là.
Je me dis. Puisqu'elle me parlait de guérison, qu'elle était sur la voie de la guérison et que c'était bientôt la fin, je me suis dit, attendons de voir la fin avant de faire quoi que ce soit, avant de déménager. Alors maintenant, je ne suis pas obligé de déménager, je peux rester ici aussi, hein, j'ai mon travail.
David, la guérison d'une dépression, ça n'est pas un retour en arrière. Jamais.
Oui. Un retour en arrière, ah d'accord. Ah bon.
Ben non.
D'accord. Ben, c'est...
J'ai l'impression que vous espérez que c'est comme si le fait qu'elle soit guérie, on effaçait tout ça et on recommence tout au départ. Quoi. Malheureusement, ce n'est pas ça. Elle a fait un chemin que vous n'avez pas fait.
Oui,
et malheureusement, le chemin qu'elle a pris ne va pas dans la même direction que le vôtre.
Ah oui, d'accord. C'est pour ça, c'est le fameux lâcher-prise, c'est ça?
Ben, c'est accepter. Pour l'instant, vous n'avez pas accepté ça et vous attendez que ça redevienne comme avant. Je crains qu'il y ait très peu de chances que ça redevienne comme avant.
D'accord.
Voir aucune, malheureusement.
D'accord. Donc, elle a bien changé.
Et là où je la rejoins, c'est que vous allez vous faire du mal si vous espérez quelque chose qui ne viendra pas.
D'accord. Très bien. Ben, vous ne faites que conforter mes craintes.
J'en suis désolée, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est comme le coup du pansement. Il vaut mieux l'arracher une bonne fois que de se faire mal en le tirant millimètre par millimètre.
D'accord. D'accord.
N'attendez pas qu'elle change et qu'elle redevienne comme avant. Elle ne redeviendra pas comme avant.
D'accord. Bon, d'accord. Bon, bah c'est comme ça.
Je suis un peu brutale, mais en plus, on a assez peu de temps.
Ah,
je ne peux pas prendre les formes pour
vous. Non, mais vous résumez comme ça en quelques mots,
je crois qu'il est urgent de penser à vous maintenant, vraiment en priorité.
D'accord.
Vos enfants et votre bonheur à vous.
D'accord.
Mais qui ne dépendent plus d'elle, parce que je pense qu'elle a pris un autre chemin.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Et puis, beaucoup de spiritisme, enfin, pas de spiritisme, de...
Spiritualité, on va dire.
Oui, c'est ça, oui.
Oui.
Je ne sais pas si c'est normal, mais beaucoup de...
Elle cherche probablement sa voie, c'est autre chose. Ça. C'est sa vie à elle, mais...
Oui,
je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner vraiment, c'est de ne surtout pas espérer que tout va s'effacer pour redevenir comme avant. Ça ne marche pas comme ça.
Ah d'accord, c'est impossible.
Une dépression, ce n'est pas impossible, mais c'est très rare. Une dépression change les choses, David, vraiment, vraiment.
Ah d'accord, bon.
Je suis désolée, je vais être obligée de vous quitter, David, parce qu'il va être 1h du matin.
Oui, merci en tout cas d'avoir été attentive à tout ce que j'ai pu dire. Et puis merci pour votre émission que j'ai découvert ce soir.
C'est vrai.
Entre guillemets.
Ah
juste
bon.
Avant, je crois que c'est Monique, hein, la dame de 86 ans avec qui vous discutiez
tout
de football, je crois.
Tout à fait.
Voilà. Et je suis tombé sur la radio juste avant et vous parliez justement de lâcher prise. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, j'ai écouté. Et puis après, je me suis dit, je vais appeler. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté, Sabine.
Merci à vous, David.
Et puis, merci pour vos conseils.
Merci, bonne soirée.
Bonne nuit, au revoir.
Et notre libre antenne se termine pour ce soir. Comme chaque soir, merci à tous d'avoir été là. Notez que demain soir, exceptionnellement, il n'y aura pas de libre antenne. Europe 1 vous propose une soirée spéciale Djokovic. Évidemment, Novak Djokovic sera en finale de l'US Open de tennis contre le russe Medvedev. Oui, je me suis renseignée. S'il gagne, ce sera historique puisqu'il aura remporté 4 tournois majeurs de cette année 2021. Donc, pas de libre antenne demain soir. La prochaine libre antenne, ce sera lundi à 22h30 avec Olivier Delacroix. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain à 23h. Et d'ici là, Je continuerai à partager avec vous des vidéos et des textes sur ma page Facebook Sabine Marin. Je vous quitte avec la phrase du jour. Il n'existe pas de réussite sans effort. Il faut être prêt à grimper pour arriver au sommet. Passez une belle nuit. Et à bientôt. Il est 1h du matin sur Europe 1. C'est le début des programmes de la nuit.